Maman Claudine, tu peux nous conduire dans la prière, s'il te plaît.
Merci, Papa Célestin. Prions notre Dieu. Tendre, nous voici encore au rendez-vous avec toi. Le rendez-vous que nous avons arrêté, Seigneur, depuis longtemps. Et l'heure est arrivée où nous devons nous tenir dans ta présence pour t'écouter, pour partager ta parole, car il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Merci, ô grand Dieu, de nous donner vraiment à comprendre cette parole pour que nous sachions, Seigneur, la partager, nous édifier ainsi mutuellement. Bénis ce moment, Seigneur éternel. Bénis toute personne qui sera connectée ce soir au Éternel Dieu Tout-Puissant et bénis ceux-là qui n'auront pas le temps de le faire. Car nous savons, notre Dieu, notre Roi, que c'est toi qui disposes de toutes choses et qui nous les donne chaque jour. Merci, tendre Père, pour ta fidélité à notre égard. Merci pour l'assistance de ton Esprit Saint, ô grand Dieu, car nous reconnaissons que sans ton Esprit Saint, nous sommes incapables de comprendre ta parole, car c'est spirituellement qu'on juge les choses de Dieu. Béni sois-tu, ô Père, car tu as tout mis sur pied pour que nous puissions être vraiment dans un environnement spirituel convenable. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui nous couvre et merci pour le soutien que nous apportent tes saints anges. À toi la gloire, l'honneur, la louange, siècle de siècle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen.
Oui, merci beaucoup. Papa Célestin pour l'ouverture. Et merci aussi à notre sœur Claudine pour la prière. Bien-aimés, nous sommes toujours dans le 10e chapitre de Marc, l'évangéliste. Marc, chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 32 jusqu'au verset 45. Marc, chapitre 10, verset 32 jusqu'au verset 45. Nous donnons la lecture à notre frère Thomas Mabiala, si peut nous lire ce passage.
Lisons Marc 10, 32 à 45. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient angoissés et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et s'est mis à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort, les livreront aux païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui, ils le flagelleront et le feront mourir. Et trois jours après, il ressuscitera. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que désirez-vous que je fasse pour vous ? » Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Ils lui dirent, « Nous le pourrons. » Et Jésus leur dit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire et que vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme des chefs de nation, ils tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Mais il n'est pas de même parmi vous. Quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque qui veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. »
Merci beaucoup, Frère Thomas, pour la lecture. Bien-aimé, encore une fois, le Seigneur annonce ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Déjà deux fois, il a dit presque la même chose. Ici aussi, il lui reprend. C'est pour montrer l'importance de sa mission. Il était venu pour ça. Et le verset 45 dit clairement, car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs ou pour la multitude, donner sa vie. Bien-aimés, nous allons faire comme d'habitude, c'est-à-dire nous partageons ce passage à partir du verset 32 et nous descendons jusqu'au verset 45. Nous savons, comme nous sommes nombreux, et qu'il s'agit du partage de l'exhortation, il nous est demandé d'être bref dans le partage. Nous avons tout au plus 2 minutes. Bien-aimés, nous disons cela 2 minutes, mais il nous arrive même au modérateur de ne pas suivre les 2 minutes. Cette fois-ci, nous voulons essayer de nous maîtriser. Quand tu as la parole et que tu dépasses les 2 minutes, prochainement, quand tu lèves ta main, nous n'allons pas te donner la parole. Pourquoi? Parce que nous voulons que plusieurs prennent la parole. Notre passage a 2 questions qui sont mentionnées, mais il y a aussi la question numéro 7 qui n'est pas là, mais qui est la question essentielle, parce que on nous demande toujours quelle est la vérité que Dieu nous révèle dans ce passage. Il y a toujours une ou plusieurs vérités. C'est pour cela que nous prenons cette question chaque jour pour voir ce que le Seigneur nous a dit. La question numéro 6, c'est s'il y a un avertissement. Y a-t-il un avertissement dans ce passage que nous avons lu? La question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Voilà, bien aimé, les quelques mots pour introduire notre passage. Et maintenant, vous avez la parole, bien aimé. Sentons-nous libres, nous sommes à la table du Seigneur, notre Père. Et si nous ne savons pas, nous pouvons demander la question, pourquoi pas? Nous sommes là pour apprendre. Personne ne prétend comprendre la parole de Dieu, mais nous essayons par la grâce que Dieu nous donne par son esprit. Merci. Nous donnons la parole à Papa Célestin. Tu as la parole, mon frère.
Oui, merci, et Papa José, pour la parole. Je suis au premier verset, c'est-à-dire verset 32. Nous voyons, ils étaient nombreux en chemin pour monter à Jérusalem. Et Jésus était le leader, il était devant. Et les disciples étaient angoissés et même ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Il n'a pas encore parlé parce qu'après il va leur révéler la vérité, mais il a déjà parlé deux fois passées. Rappelons-nous, la toute première fois quand il leur a parlé, Pierre l'avait pris de côté pour lui dire « Non, cela ne t'arrivera pas. » Tout simplement parce que Pierre avait une façon de voir la réussite du Seigneur différente de celle de Jésus. Il avait reproché « Arrière de moi, Satan, ta façon de voir les choses est tout à fait humaine. Tu ne vois pas les choses comme Dieu le voit. » Et cette fois-ci, il monte vers Jérusalem, angoissé et troublé. Et cela, d'abord, la première leçon que je tire, c'est Jésus qui montre vraiment l'exemple. Courageux, devant la foule, en train de se diriger vers là où il va mourir. Il a une destinée et il ne veut pas arrêter sa destinée à cause des plaintes, des pleurs et des autres. Et c'est un exemple à suivre quand on voudrait faire quelque chose. Quand on est dans la volonté de Dieu, il faut qu'on regarde vers Dieu, vers le Seigneur, vers les promesses, qu'on fonce au lieu de s'arrêter. Amen.
Amen.
Amen. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Il sait qu'il va mourir malgré les inquiétudes, les plaintes, l'angoisse et la peur. Il s'avance. Et c'est comme ça que nous sommes appelés à vivre notre foi en allant toujours vers notre Père. Si. Maman Claudine,
merci, papa.
Il y a la parole.
Merci, Papa José. Je vais partager le verset 33 et le verset 34 qui se complètent, où la Bible nous dit « Voici, nous monterons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux mains des païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, les battront de verges, et ils le feront mourir. Trois jours après, il ressuscitera. » Nous voyons comment Jésus-Christ est très précis. Après avoir annoncé à deux reprises sa mort, ici, il est très explicite par rapport au traitement, au mauvais traitement qui devait endurer. Mais nous voyons qu'il est déterminé à accomplir la volonté du Père, à faire la volonté de Dieu. Vu tout ce qu'il est en train d'expliquer là, ceci peut amener à la rébellion, parce que c'était un très mauvais traitement qu'il devait subir.
ça pouvait l'amener à la rébellion pour dire je ne vais pas souffrir comme ça à cause des gens. Moi, je n'ai rien fait. Mais malgré le mauvais traitement, il savait ce qu'il va subir, mais il était resté obéissant à la volonté du Père. Et ceci vraiment nous donne un modèle à suivre, car malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer sur notre parcours, c'est qu'en tant que nous sommes dans la volonté du Père, nous devons accepter de payer les prix. Amen.
Amen. Merci. Le Seigneur est conscient de tout ce qui va lui arriver, mais il ne s'arrête pas. Parce que il est venu pour cela. Il est venu pour mourir. Pourquoi alors avoir peur de tout ce qui va arriver? Merci beaucoup, notre sœur. Papa Richard, tu as la parole.
Merci beaucoup, papa pasteur, pour la parole. Je rentre encore au verset 32. Il y a toute une phrase dans le verset 32 où, qui dit « Jésus marcha en tête ». Jésus a pris le leadership. C'est vrai que l'angoisse peut nous prendre. La peur peut nous emparer. Aussi longtemps que nous savons, nous devons nous rassurer que Jésus-Christ est à la tête. Il y a bien des situations qui peuvent affecter nos émotions, nos sentiments. Mais la clé ici, Jésus-Christ est à la tête. Et quand Jésus-Christ est à la tête, et il y a une garantie. Donc, c'est ce que je tenais à partager. Cela m'a encouragé que, du moins, les émotions peuvent être bousculées, mais mes yeux doivent être braqués sur Jésus-Christ qui est à la tête. Merci.
Malgré la peur, les inquiétudes, nous devons toujours regardez vers lui, vers le Seigneur. Merci beaucoup. Et encore, qui veut dire un mot? C'est le modérateur peut prendre le verset 33 qui a été bien expliqué, mais je prends plutôt le verset 34 pour faire les liens avec le 33e. Ceux-ci, c'est-à-dire les païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort. Et après 3 jours, il se relèvera de la mort. Le verset 33 et 34 parle de deux groupes d'hommes. Il y a d'un côté les Juifs, représentés par les chefs des prêtres et le maître de la loi. Eux, leur travail de condamner à mort le Seigneur Jésus. Ils vont le condamner à mort. Alors, mais ils ne vont pas le tuer. Ce sont les païens. Ceux-ci se moqueront de lui, cracheront sur lui, le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort. La mort du Seigneur englobe tout le monde, et les Juifs et les non-Juifs. Les non-Juifs sont représentés par les Romains qui étaient là, et le gouverneur Pilate, surtout, parce que c'est lui qui va signer l'ordonnance ou les dit, c'est lui, le païen. Mais son peuple va prononcer sa condamnation à mort. La mort du Seigneur regarde toutes les nations, tout le monde a pris part à cette mort. Cette mort innocente, mais cette mort qui nous sauve. Nous devons alors être reconnaissants à ce Seigneur qui s'est donné de cette façon pour mourir afin de nous donner le salut ou la vie éternelle. Merci. Je donne la parole à notre frère Franck de Ontario.
Merci pour la parole. Je suis au verset 34. Disons la dernière partie où Jésus expliquait, il a fini l'explication par dire il va mourir et puis il va ressusciter. Cela pour apaiser les inquiétudes de ceux qui les suivaient. Et nous voyons en ceci que Christ savait ce qu'il attendait, mais quand il expliquait, c'était comme si cela ne lui disait rien. Mais il allait vers la mort et toutes les souffrances. Et ce que je voudrais dire, pourquoi il devait aller, pourquoi il tenait à aller à Jérusalem, parce que la croix était partie du plan de Dieu. Et cela était l'objectif le plus cher à Jésus-Christ, d'aller accomplir maintenant le plan de Dieu. Et la croix devait être chère parce que, en mourant sur la croix, il devait satisfaire le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que, sans cela, il n'y aurait pas de vie éternelle. En allant sur la croix, c'était le seul moyen par lequel beaucoup devaient être réconciliés avec Dieu. Et la croix, c'est à travers cette mort où il devait être maintenant le premier-né de tous ceux qui l'auront. Donc il aurait eu plusieurs sœurs et frères, nous tous aujourd'hui, nous sommes frères et sœurs, à cause de ce qui lui est arrivé à la croix. Et la croix, c'était pour détruire la puissance du diable sur l'homme. Et c'est pour ça qu'il devait mourir. Et aussi, la croix, j'ai déjà dit qu'il devait réconcilier les hommes. Il y a aussi un dernier élément, c'est à travers la mort qu'il devait lever et revenir à son ancienne gloire. Il devait maintenant aller rentrer au Père, vivre la même gloire et s'asseoir auprès du Père en passant par ces trois. Voilà pourquoi cela était important. Et ceci doit nous être aussi, c'est pourquoi l'importance de la croix et la mort de Jésus-Christ, plus sa résurrection, doit chaque fois nous interpeller et pour que nous revoyions notre marche avec lui. Il a dit, si vous voulez venir avec moi, si vous voulez me suivre, prenez votre croix, reniez-vous d'abord, prenez votre croix et suivez-moi. Amen.
Merci frère. La croix nous réconcilie. La croix a détruit les œuvres de l'ennemi. Et la croix a permis que le Seigneur puisse rentrer dans sa gloire en passant par la résurrection, bien sûr. Merci beaucoup, frère. Papa Richard, tu as encore la parole.
Merci beaucoup, papa, encore pour la parole. Toujours dans le verset 32, j'étais encouragé de voir Jésus qui prit de nouveau les 12 à part. Nous avions eu la grâce que Jésus nous a pris à part pour nous instruire à travers les partages des uns et des autres. Et ici, faire partie d'une équipe qu'on met à part, ça a de la valeur. Jésus-Christ certainement était avec une foule qui le suivait tout le temps, mais il dit au four, vous pouvez m'attendre, je vais prendre 7 ans particuliers avec les 12. Quelle grâce, quel privilège ce soir de trouver 7 ans à part avec notre Seigneur. Merci.
Il a pris à part ses disciples pour leur parler de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection. Ce soir, le Seigneur nous a pris aussi à part pour nous parler de cette même mort en nous unissant à cette méditation. C'est une grâce que beaucoup n'ont pas. Nous ne méritons pas, mais c'est par grâce que nous sommes là. Merci beaucoup. Papa Gaston.
Merci, Pasteur José.
J'ai la parole.
Merci pour la parole, Pasteur José. Je suis au verset 37 et 38a. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à droite, à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. » Je suis interpellé par la préoccupation de Jacques et Jean. Et lorsque le Seigneur parle, ils sont préoccupés par autre chose, de telle sorte que les paroles dites par le Seigneur n'ont pas d'impact profond dans leur cœur, parce qu'ils s'accrochent à ce qui doit leur revenir du fait qu'ils suivent Jésus-Christ. Je pense qu'ils sont parmi les premiers disciples, André, Pierre et puis Jacques et Jean. Et Jean, si je regarde bien, c'est les disciples que Jésus-Christ aimait. Donc, il devait plus comprendre ce que le Seigneur disait. Mais, curieusement, il est à côté. Ce qui m'interpelle, que je fasse attention, Gaston, je peux être tout le temps à la méditation à 21h, être responsable, faire telle activité, même la dirait, mais je ne comprends pas le langage du Seigneur ou je ne comprends pas les vérités que le Seigneur me transmet malgré ma présence à la méditation. Je ne change pas parce que je suis focalisé sur mes propres intérêts, sur ce qui peut me revenir comme gloire. Jacques, Jean qui sont là, malgré ce que le Seigneur a dit, il voulait avoir une place d'honneur. Que ma prière est que le Seigneur me fasse grâce, que je comprenne les langages et que je me laisse transformer par les messages du Seigneur. Amen.
Merci beaucoup. Qui sont Jacques et Jean par rapport au Seigneur Jésus? Jacques et Jean sont ses cousins. Bien-aimés, dans un autre évangile, c'est bien leur maman qui vient voir le Seigneur, toujours sur la même question de être à côté du Seigneur, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. La maman est venue. Ici, on ne parle pas de maman. On parle de deux, ce sont des jumeaux, qui viennent vers leur cousin, le Seigneur. Ils voient seulement le côté physique, matériel. Mais ils ne savaient pas le travail de leur frère, de leur cousin. C'est le Messie qui doit mourir, c'est lui. Il n'y a pas que les deux là. Il y a aussi Pierre, par exemple. Quand il a entendu le Seigneur dire, voilà, je vais mourir. Non, viens ici. Qu'est-ce que tu dis? Tu fais quoi? Tu meurs? Non. Question. Voilà. Tous les disciples voyaient le Seigneur comme étant leur chef. Alors que lui, il était venu pour autre chose. Non seulement pour le petit groupe de Juifs, mais c'est pour toute l'humanité. Voilà, que le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir ce qu'il veut faire de nous. Et que nous soyons humbles pour l'écouter, afin que nous fassions vraiment sa volonté. Non, ce que nous voulons. Merci. Nous donnons la parole au frère Papa Célestin. Tu as la parole?
Oui, merci Papa José pour la parole. Le verset 32 précise bien que ce sont les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui vont effectivement s'approcher du Seigneur pour lui demander quelque chose. Et le Seigneur va leur dire que désirez-vous que je fasse pour vous, parce qu'il a lu dans leur cœur les désirs qu'ils ont. Alors, quel rapport y a-t-il entre la résurrection et le positionnement? On dirait c'est du coq à l'âne, tout simplement parce que dans leur tête, ils avaient une compréhension différente de la mission du Seigneur. J'étais en train de lire le verset 21 des deux disciples qui étaient sur la route le jour de la résurrection vers Emmaüs. Luc 24, le verset 21, il disait, et c'était au Seigneur qu'ils étaient en train de parler, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Voilà ce qu'ils avaient en tête. Pour eux, tout ce que le Seigneur est en train de raconter, il raconte les histoires. Mais nous, nous avons besoin de positionnement. Parce que nous allons à Jérusalem et c'est là que nous allons prendre le pouvoir. Et comme le frère Gaston disait, des fois nous tapons complètement à côté du message central de l'Évangile qui est le sacrifice pour le royaume. Et nous regardons souvent nos propres intérêts. Ensuite, nous voyons du tribalisme ici dans ce texte. Les deux fils. Pourquoi il n'a pas pris Jacques, n'a pas pris Pierre? Pourquoi Jean n'a pas pris Matthieu? Il prend son frère. Tout simplement parce qu'on veut travailler avec quelqu'un de sa tribu. Quand on voit quelqu'un qui est d'une autre tribu, on dit, ah, lui aussi, qu'est-ce qu'il vient de faire ici? On veut tout simplement, on est à l'aise avec les gens de sa tribu. Ça, c'est vraiment un mauvais exemple à suivre. Amen.
Amen.
Bien-aimés, faisons attention de ne voir que ceux de sa tribu, ceux de sa région, ceux ou celles de sa langue, dont le service du Seigneur, nous sommes appelés à travailler tous ensemble, pas seulement avec ceux de ma tribu. Merci beaucoup, Papa Célestin. Encore une fois, la parole est accordée au frère Franck. Tu as 2 minutes, mon frère.
Merci.
Allons-y.
Merci pour la parole. Je suis au verset 35 pour parler de Jean et son frère. Oui, ils avaient une ambition. Mais quand nous regardons que leur ambition était chargée de fourberie. Pour dire tout simplement que ce n'est pas mauvais d'avoir des ambitions. Mais comme le pasteur venait de le dire, quand on a des ambitions, il faut être sincère. Parce que Christ connaît nos cœurs. Mais ce que je voudrais dire en plus de ça, c'est que ça, c'est un mauvais exemple quand on a une ambition avec des désirs ou une fourberie, juste pour chercher la position. Mais il y a quelque chose que c'est la promptitude avec laquelle ils ont répondu à la question au verset 38 quand Christ leur a demandé s'ils peuvent passer par les mêmes souffrances que Christ va passer. Ils ont dit oui. Il est vrai que nous pouvons aussi répondre oui, mais nous devons être sincères. Il nous demande de le suivre et de prendre la et prendre la croix. Mais sommes-nous sincères? Les persécutions arrivent. Il y aura des persécutions de toutes formes, et si cela arrive avant que nous mourons, sommes-nous capables de rester fidèles à Christ, en train de le suivre? Telle est la question que chacun, moi-même, je me pose. Et c'est cela qui va me fortifier dans la méditation de la parole avec l'application de la parole de Dieu. Amen.
Amen. Merci beaucoup, frère Franck, pour la parole, pour le partage. Nous donnons encore la parole au pasteur Richard.
Merci encore une fois, Papa Pasteur, pour la parole. Juste ajouter une autre alternative sur cet aspect où Jean et Jacques, en tant que frères, sans autre, nous avons besoin de nos frères. Nous avons besoin de supporter l'œuvre de notre frère. Dans les familles, il y a de temps à autre un pasteur qui commence l'église. On voit sa famille ne vient pas pour supporter. C'est vrai que ce n'est pas juste supporter, mais nous venons servir Dieu. Mais notre présence aussi là-bas a de l'importance. Ça porte c'est un bon témoignage. Nous verrons du moins au départ du ministère de Jésus. Ou quand Jean et Jacques, dès qu'ils ont rencontré le Seigneur, ils sont allés prendre leurs frères. Donc, ce n'est pas mauvais d'avoir la famille, les tribus dans l'œuvre de Dieu. Je suis sûr que fournir, s'accaparer du pouvoir au niveau tribal ou bien au niveau familial, ça, je supporte l'idée. Que mes prédécesseurs l'ont souligné. Mais il est très important que nous, en tant que membres de famille, nous puissions être là quand un de nos frères et sœurs est en train de servir le Seigneur au lieu de nous éloigner. Parce que derrière la réponse de Jésus, Jésus leur a réorienté. Jésus ne leur a pas reproché leur attitude de cœur, parce que notre Seigneur est capable de voir le cœur. Jésus leur a dit, non, vos préoccupations sont loin. Voici ma mission. Ma mission est vers la croix. Donc, d'habitude, Jésus, quand Pierre a voulu dire à Jésus, Jésus lui a engueulé. Jésus lui a dit, arrière moi, Satan. Mais ici, on ne voit pas Jésus reprocher le frère. Leur ambition en tant qu'humaine, en tant que business, leur ambition était noble. Nous voulons soutenir l'œuvre, moi et mon frère. Et puis ici, nous voyons Jésus qui réoriente. Il dit, non, vos pensées sont à gauche, mais ma mission est à droite. Est-ce que vous êtes prêts à boire la coupe que m'attend? Est-ce que vous serez prêts à être baptisé du baptême que je vais subir? Ils ont répondu oui. Quand vous voyez leur mort, ils sont morts sur ce chemin-là. Donc, ils n'ont pas fui. Ils ont supporté. Oui, nos ambitions étaient de supporter ton business, mais maintenant nous comprenons que ce n'est pas le business, mais plutôt c'est le ministère qui va coûter notre vie. Les deux sont morts dans le Seigneur. Merci.
Merci beaucoup. Les deux sont morts. Jacques, il est mort décapité en l'an 44 par Hérode. Tandis que l'autre est resté, c'est lui qui a écrit l'Apocalypse quand il était en fuite, en exil. Ils ont servi le Seigneur jusqu'au bout, mais ils ne savaient pas ce qu'ils demandaient. C'est la réponse de leur frère. Au verset 38, la première partie, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Il demandait d'être l'un à sa gauche, l'autre à sa droite, lorsque il va régner. Lorsqu'il va régner, qu'il soit l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Et le Seigneur de dire, vous ne savez pas ce que vous demandez. Ne nous arrive-t-il pas de demander au Seigneur des choses qui semblent à première vue bonnes? Mais cette demande-là, est-ce que elle est bonne selon le Seigneur? Donc, nous sommes appelés à demander au Seigneur de nous aider lorsque nous formulons de prières. Nous nous adressons aux intercesseurs que nous sommes. Nous sommes tous les intercesseurs, mais nous devons savoir ce que nous demandons à notre Dieu. Merci. Merci beaucoup, Papa Richard. Encore une fois, nous donnons la parole à notre sœur, Maman Claudine. Tu as la parole, ma sœur.
Merci, Papa José. Je vais partager le verset 39 et 40, où la Bible nous dit, « Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire. » Et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais, pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Nous voyons que le Seigneur est conscient parce qu'il connaît toutes choses. Il sait que ce qui devait leur arriver après, qu'ils auront aussi du royaume. Mais, la demande qu'ils ont formulée, c'était comme vient de le dire mon frère, c'était des ambitions égoïstes. Et quand nous avons des ambitions égoïstes, la suite c'est un « mais ». Parce que le « mais » annule dans la phrase « annule » ce qui précède. Donc c'est vrai qu'ils sont morts, mais malgré ce que nous pouvons endurer, bien aimé, cela ne nous donne pas les honneurs. Comme nous venons de le voir ici, à se mettre à la droite et à la gauche de notre Seigneur, ce sont des titres honorifiques. Or, dans le royaume, il n'y a pas de gens qui ont des titres honorifiques. Dans l'œuvre du Seigneur, il n'y a pas de titres honorifiques. Parce que même à ceux à qui on donne des charges, des responsabilités, on leur demande beaucoup. Et c'est le beaucoup qu'on leur demande, c'est être au service des autres. Parce que si on a des titres honorifiques, c'est qu'on vient maintenant et on doit être servi. Et c'est ce que Christ dira à la fin, qu'il n'est pas venu pour être servi, mais c'est pour servir. Or, quand on se met à un seuil là très élevé, c'est qu'on attend, c'est qu'on nous serve. Dans l'œuvre du Seigneur, nous devons chercher à être serviteurs et non pas à être maître. Il n'y a qu'un seul maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, ce n'est pas un exemple à suivre. Amen.
Amen. Seigneur, il n'y a qu'un seul maître. Pas deux, pas trois. Il nous appelle au service. Merci beaucoup, notre sœur. Bien-aimée, j'aimerais que pour les minutes qui restent, nous puissions les consacrer à la dernière partie, c'est-à-dire à partir du verset 41 jusqu'au verset 45. Ma sœur, notre sœur, a dit quelque chose là-dessus et j'aimerais que nous puissions revenir encore là-bas. Est-ce que, papa Franck, tu veux parler pour ces autres, ce verset-là, 41 à 45, ou bien la première partie?
Juste 40, ou parce que le 41, c'est la même chose, c'est à propos de des ambitions qu'il y avait dans Jean et Jacques. Ce que je voudrais tout simplement dire, c'est sur 40 rapidement pour dire que à propos de cette ambition, Jésus était clair, il a clarifié que Dieu est en train de préparer déjà les gens qui vont s'asseoir à sa droite et à sa gauche. Il y aura des gens qui vont s'asseoir à droite et à gauche. Et cela aussi m'interpelle pour dire une deuxième chose que tout pour régner avec Christ, cela ne dépend que de la justice de Dieu. La justice juste de Dieu. C'est pourquoi il y a le jour, le dernier jugement. Et c'est cela qui va déterminer qui va régner avec Jésus-Christ. Parce que se mettre à droite ou à gauche, c'est tout simplement régner avec Christ. Amen.
Amen.
Amen. Régner avec Christ. Merci. Bien-aimé, le verset 41 nous présente l'attitude des 10. Il y avait 12. 2 ont choisi de se mettre l'un à gauche du Seigneur, l'autre à droite. Les 10 autres ont suivi cela. Quelle était leur attitude? Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Voilà. Le comportement de ceux deux a poussé les autres à l'indignation, au murmure. Bien-aimé, que mon comportement ne soit pas à la base de murmures, de l'indignation des autres. Parce que quand on est indigné, on peut penser à beaucoup de choses. Mais nous devons éviter d'être à la base de l'indignation. Peut-être eux aussi voulaient être comme eux ont pensé, mais il y a l'indignation qui est entrée dedans, qui fait que les deux autres ont été à la base de leur comportement, qui est aussi un comportement qui n'est pas bien pour les enfants de Dieu, mais que nous ne soyons pas à la base de l'indignation. Merci. Oui, j'aimerais qu'une autre personne qui n'a pas encore parlé et qui hésite, il essaye quand même d'ouvrir la bouche pour demander la parole. Qui n'a pas encore parlé et qui veut essayer. Qui veut essayer. Ce que tu vas dire sera apprécié par tes frères et sœurs, y compris les seigneurs, ne fût-ce qu'une phrase, ne fût-ce que de citer le verset, que moi, je suis touché par ce verset, on le lit, on passe, sans commentaire. C'est déjà le partage qui veut essayer. Ok, il y a encore de l'hésitation, ça va venir un jour. Nous donnons encore la parole à notre sœur, maman Claudine. Tu as la parole.
Merci, papa José. Je partage du verset 42 au verset 44,
où nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, il parle encore, il leur donne même un conseil. Il dit que Jésus leur appela et leur dit, « Vous savez que ceux qui ont regardent comme les chefs des nations les tyrannisent et que le grand les domine. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Et si le Seigneur est en train de donner l'enseignement sur l'humilité, parce que quand on regarde même dans le monde, les grands, ils dominent sur leur sujet, ils les tyrannisent même. Mais si, alors nous aussi, enfants de Dieu, nous voulons être grands, nous voulons être chefs par rapport aux autres, c'est que nous allons aussi dominer. Or, dans l'Église du Seigneur, il n'y a pas une hiérarchie qui peut amener à dominer sur les autres. Au contraire, nous devons être, nous considérer comme des serviteurs, comme des petits, comme le plus petit des autres. Alors, en ce moment-là, nous comprenons que la parole que le Seigneur, la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Ce sont ceux qui s'humilient, ceux qui se rabaissent, quoique ils ont des responsabilités. Voilà ceux-là que le Seigneur a dit que ça dépend de la souveraineté du Père. Il a déjà préparé des gens pour la gloire. Parce qu'être assis à droite et à gauche de Jésus-Christ, c'est ça la gloire, c'est partager la gloire. Mais c'est que pour les gens qui sont humbles. Et on ne force pas l'humilité. Parce que c'est le Saint-Esprit qui produit cela en nous. Donc, ce que nous comprenons par ce passage, que nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire, quoique même si nous avons une parcelle d'autorité, comme on peut le dire entre guillemets, dont nous sommes responsables, mais nous ne devons pas regarder comme si nous sommes autorité, nous sommes grands par rapport aux autres, de peur que nous puissions chercher à dominer, chercher à tyranniser les autres. Amen.
Amen. Chercher à dominer et à tyranniser, c'est mauvais. Bien aimé, je suis obligé d'arrêter le partage ici pour permettre au pasteur Célestin de nous dire un mot sur le camp que nous avons fait en Belgique. Lui, en tant que responsable, il est appelé à faire des comptes rendus, si pas un compte rendu exhaustif, mais quand même donner une idée sur ce qui s'est passé. Et après cela, je reviens juste un peu pour dire un mot sur le verset 45. Papa Célestin, tu as la parole.
Que tu clôtures les textes et puis dans les annonces, on peut dire un mot là-dessus au lieu de mélanger les annonces et la clôture du texte.
Oh, ok, il n'y a pas de problème, je peux le faire. Je voudrais dire que le verset 45, le dernier, est le verset le plus important du passage. Quand on considère la discussion entre les disciples, les deux d'abord et les dix ensuite, sur celui qui sera à gauche ou à droite, le Seigneur montre comment se conduire. Il prend son exemple. Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir. Et surtout, donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est moi qui mets le surtout. C'est tout simplement pour montrer que notre Seigneur est venu pour mourir. Quand il raconte de sa mort, et c'est ça, il était venu pour cela, et nous devons suivre son exemple. Merci. Papa Céleste, tu as alors la parole.
Ok, merci Papa José pour la parole. Là, nous passons en même temps, on dit un mot sur les camps, en même temps, on passe aussi aux annonces. Les camps à Verviers en Belgique s'est terminé effectivement comme prévu le 2 août. C'était un camp très bien réussi, très bien organisé. Et nous avons vu comment les frères et sœurs de Verviers se sont, avec tous les moyens, ils ont mis tous les moyens à notre disposition pour l'accueil, pour le service, pour le dévouement. Et ça a été vraiment un grand exemple pour nous. Ils n'ont pas eu assez de temps. 2 mois ont été vraiment suffisants pour organiser les camps. Parce que rappelons-nous que les camps étaient prévus d'abord à Chimé, à Mâcon, à côté de Chimé. Mais le Seigneur nous a convaincus pour les raisons que nous avions déjà données que et aussi pour l'efficacité de la première sortie en Europe, de déplacer le camp de Mâcon jusqu'à Verviers. Et les frères et sœurs qui sont venus de partout, du Canada, des États-Unis, de toute l'Europe, ont pu voir réellement le dévouement des frères et sœurs. Et nous étions là en train de louer le Seigneur pour dire que nous pouvons trouver des personnes vraiment dévouées qui peuvent mettre leur temps, qui peuvent mettre leurs moyens matériels, leur maison, leur véhicule, leur maison, leur bien et tout au service du Seigneur. Et c'était vraiment un exemple à suivre. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour cela. Les Écritures nous disent que certaines personnes, la façon dont elles servent le royaume, méritent vraiment d'être honorées. Et c'est pour cela que nous avons, à la clôture du camp, pour ceux qui ont suivi cela en direct, dans le site, nous avons honoré, malgré qu'elle ne savait pas ce que nous étions en train de faire, notre sœur Claudine, qui est parmi nous, en vacances en Amérique du Nord, à New York, c'est elle qui a pris la charge vraiment d'impliquer son église, d'impliquer tous les membres de son église, d'impliquer plusieurs églises pour que le camp soit vraiment une bénédiction. Et ceux qui avaient l'habitude d'entrer dans la méditation de l'Europe, et quand vous entrez aujourd'hui dans la méditation de l'Europe, vous allez voir le changement, combien il y a un engouement de la méditation. Et pour montrer déjà l'exemple, combien ce camp a été une grande bénédiction pour le royaume. Merci beaucoup à notre sœur Claudine qui est là. Tu mérites nos remerciements, tu mérites même le Seigneur aussi. Il récompense et il déclare quand on fait vraiment du bon travail.
Merci. Et le prochain camp?
Oui, disons avant de parler du prochain camp, la note négative que nous avons connue dans ces camps, ce sont les personnes indécises. Jusqu'à la veille, il y avait des personnes, nous ne savions pas est-ce qu'elles vont être là, ils ne vont pas être là. Donc le bureau, quand nous nous réunissons pour le prochain camp, nous allons statuer pour que nous ne puissions pas rester quelques personnes sans avoir rien payé, les chambres réservées, les chambres payées, et on était là dans l'impasse, 6 ou 7 chambres payées, et les chambres sont restées vides. Ça, c'est vraiment un exemple que nous devons vraiment étudier à l'avenir. Comment éviter cela? Comment vraiment éviter cela? Le prochain camp va être à Calgary, dans le pays des roses sauvages, c'est comme ça, notre devise, le pays des roses sauvages. Donc on attend les frères et sœurs de Raleigh, d'Ottawa, de Verviers, de Montréal, partout on a déjà organisé les camps pour être à Calgary, toujours aux environs de la même date, fin juillet, début août. Donc, tout le monde est invité et que nous pensons que ça va être encore un grand filet que nous allons lancer dans toute l'Alberta, pourquoi pas les provinces voisines. Nous parlerons du camp, nous parlerons de la ligue, nous parlerons de la méditation, nous parlerons de la promotion de la parole de Dieu dans la vie personnelle. Voilà, papa José, le prochain camp, tout le monde est invité. On peut même déjà se faire inscrire, réserver les dates et déjà être prêt à ce que nous puissions nous voir. La particularité encore dans le camp passé, c'est que beaucoup d'anciens ligueurs se sont retrouvés. Nous avons chanté nos anciens chants de la Ligue avec l'ensemble et nous allons continuer dans la même lancée à Calgary et nous avons été fortement bénis. Amen.
Amen.
Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons te demander de terminer par la prière, pasteur, avec cet élan que tu as?
Ok, merci, prions. Notre Dieu, merci. Parce que tu nous as donné le texte, combien tu annonces pour la troisième fois les souffrances, la mort, la résurrection et même l'accomplissement des prophéties. Parce que plusieurs prophètes avaient parlé déjà des souffrances, des meurtrissures, comme Ésaïe et les autres, et tu viens confirmer ce que les prophètes ont déjà donné comme message. Mais tes interlocuteurs, c'est comme nous encore aujourd'hui, le message de l'Évangile, des fois nous le comprenons de différentes manières, mais tu veux tout simplement nous montrer la priorité du royaume doit être notre préoccupation, au lieu de regarder aux intérêts personnels, au lieu de regarder aux gens de notre tribu pour le royaume, au lieu de regarder qu'aux gens de notre famille ou de notre race, tu nous montres réellement que ceux qui sont appelés à te servir, à être tes serviteurs, doivent être réellement au service et non point être servi. Quel grand enseignement tu nous donnes, Seigneur, de ne point chercher les gros titres, de ne point chercher tout ce que les grands de ce monde cherchent, mais de suivre tes pas, servir, encore servir pour l'avancement du royaume. Merci de bénir chacun et chacune. Merci de ce rassemblement, cette fête que nous avons connue à Verviers. Nous te bénissons pour le travail de suite. Nous te bénissons pour nos prières qui accompagnent nos frères et sœurs. Et nous te bénissons pour le prochain camp, pour que tu continues à faire, à achever le travail que tu nous as laissé dans notre génération sur cette terre, Seigneur. Nos frères et sœurs qui sont encore en cours de route, qui ne sont pas rentrés, nous continuons à les bénir. Nous continuons à supplier ta grâce pour la protection à bord des avions, à bord de tous les moyens de déplacement. Merci de tout cœur pour l'œuvre que tu es en train de faire dans le cœur de chacun et de chacune d'entre nous. Que ta bénédiction nous accompagne. et que ta grâce abonde dans nos maisons, que ta grâce abonde dans le FIMES, que ta grâce abonde dans chaque famille connectée, notre Dieu. Et cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amen.
Merci beaucoup, pasteur, pour la prière. Bien-aimés, demain, nous terminons le chapitre 10 en lui.